Jules Hermina, Histoires incroyables, Les fous. Pourquoi 6 heures? Non pas 6h-5 minutes, ni 6h05, mais bien 6 heures juste. Cela me préoccupait plus que je ne voulais me l'avouer, et cependant je ne m'étais pas trompé. Tenez, hier encore, j'étais allé chez lui pour mon procès. Car il est temps que je vous dise de quoi je veux parler, ou plutôt de qui. Lui, c'est Maître Golding, mon sollicitor, un homme de sens et de talent, plus rusé que tous les attornés des États-Unis, et qui sait vous retourner un juge comme un gant de feutre, ou lui ouvrir l'esprit à point, comme le plus graissé des Bowie Knives. Je suis un homme, comme vous, ami lecteur, mais peut-être ai-je en moi telle disposition qui, chez vous, n'existe qu'à l'état latent. J'ai remarqué que chez tout individu appartenant à la race humaine, réside en un point spécial et sans qu'il s'en rende compte lui-même, une faculté comme une sorte de sens douée d'une superacuité remarquable. Chez les uns, j'ai vu que c'était le désir de l'or, ou plutôt le flair des affaires. Chez les autres, c'était la divination intuitive de la fragilité d'une femme. Les uns se disaient, en entendant un bavard, « Là, il y a une bonne affaire engagée. » Les autres, en regardant la plus guindée de toutes les mères de famille, « Bah, voilà une femme dont je serai l'amant. » Cela ne se discute ni ne s'explique, cela est. C'est une agrégation indépendante de toute volition entre telle portion d'un autre être et la portion équivalente de votre propre nature, comme un engrenage auquel vous ne pouvez échapper. Il y a en lui ou en elle telle aspérité qui s'accroche par son évolution même à un des ressorts de notre mécanisme et tout suit. Moi, j'ai le flair de l'étrange. Chez un homme si innocent, si naturel qu'il paraisse à tous, je pressens, je constate l'anormal, en si petite dose qu'il s'y trouve. L'infinitésimale m'affecte, et une fois que j'ai été touché par ce ressort invisible, rien ne peut m'arrêter. Il faut que je sache que je suive le mouvement, l'impulsion qui m'a été communiquée. C'est ainsi que cela se passa avec Maître Golding, homme régulier et comme le balancier d'une pendule, marchant avec un rouage, vivant automatiquement, ou plutôt mathématiquement. À 10 heures du matin, je le trouvais à son bureau pour ses consultations. Et remarquez-le, jamais une minute avant ni après 10 heures. À 1 heure au tribunal, à 5 heures dans son cabinet, à 6 heures. C'est là ce qui me frappa. J'étais chez lui, nous causions de mon procès. Oh, une misère, quelques centaines de dollars dont je me soucie comme d'un poisson salé. Mais j'en avais fait une question d'amour-propre, et pour la 20e fois, ou pour la 100e peut-être, je répétais à Golding les pourquoi de mon entêtement. Il m'écoutait comme un solliciteur s'est écouté, tarifant d'avance chaque minute qui s'écoule, et rêvant déjà aux mémoires à présenter sur lequel je devais lire, pour avoir conféré pendant 1 heure du procès X 8 dollars. Je n'avais pas pris garde à l'heure, et lui ne me rappelait pas que l'heure de sa consultation allait être achevée. En vérité, nous approchions du dénouement, et cette conférence n'était pas inutile. C'est alors, j'entamais le dernier point de la controverse, et j'allais démontrer victorieusement que mon adversaire était un malhonnête homme. C'est alors que sonnèrent 6 heures. Oh, doucement, tout doucement, au timbre fêlé d'une vieille pendule vermoulue, échappée de quelque cargaison anglaise. Il paraît que 6 heures sonnèrent. Moi, je n'entendis rien, tant le timbre avait faiblement résonné. Mais instantanément, Golding n'était plus devant moi. Où donc alors? Tout à l'heure, il était si solidement cloué dans son fauteuil de cuir. Je regardais derrière moi, la porte de l'étude se refermait. Il était parti. si vite, si délibérément, sans un mot d'excuse, sous un geste d'avis, parti ou plutôt glissé dehors. Alors il y eut agrégation entre le quelque chose personnel à cet homme et ma faculté d'investigation. Je me sentis accroché, le cliquet était tombé. Non, ce n'était pas par impolitesse, ennui ou fatigue qu'il s'en était ainsi dérobé à notre entretien. Par impolitesse, Golding était la courtoisie en personne. Par ennui, un solliciteur ne s'ennuie que de ce qui ne rapporte pas. Par fatigue, un client ou un autre, qu'importe. Il y avait autre chose. Quoi? Je ne le savais point, mais je le sentais. Sensation vague, intuition positive, qui ne définit pas, mais affirme. Pendant toute la journée du lendemain, je fus obsédé, non d'un désir, mais du besoin de savoir. C'était une possession. L'idée avait pris racine en moi, elle germait, grandissait. Je retournai chez le solliciteur à 5 heures. Il me reçut comme à l'ordinaire. Nul changement, nulle gêne, mais pas une excuse. Il semblait ne pas avoir la notion de ce qui s'était passé. Je n'osais pas lui en parler. Pourquoi la question vint-elle 10 fois sur mes lèvres et pourquoi 10 fois ne me sentis-je pas le courage de parler? Quelques minutes avant 6 heures, j'attendais. Oh, comme j'attendais que le timbre fêlé retentît! Mais on vint nous déranger. Je dus partir, je descendis dans la rue. À 6 heures, il passa auprès de moi sans me voir. Ou du moins, je suis sûr qu'il ne me vit pas, quoiqu'il m'eût regardé. Je pouvais le suivre, mais je jugeais qu'il ne fallait pas procéder ainsi. Je m'en allais pour revenir encore le lendemain, le surlendemain. Mais le hasard, ou était-ce bien le hasard, était contre moi. Je ne pouvais me trouver dans son cabinet jusqu'à 6 heures. Seulement, alors que je me tenais en bas, blotti près de la porte, l'épiant, comme aurait fait un voleur qui en eût voulu à sa bourse, je le voyais passer, froid, calme, insensible à tout ce qui se passait autour de lui, toujours dans la même direction, sans tourner la tête à droite ni à gauche, regardant droite vers un but. C'était un homme de 40 ans. Ah, son portrait, oh, il ne présentait rien d'étrange. Aucun caractère singulier. Les enfants ou les personnes sentimentales croient seuls encore à un rayonnement de l'étrange en dehors de l'individu, à une trahison de la physionomie et de l'allure. Croyez-moi, défiez-vous au contraire de l'homme dont rien ne sort. Visage calme, attitude insignifiante, c'est hypocrisie voulue ou inconsciente. Le visage qui ne dit rien parle en dedans. Celui-là, avec ses cheveux gris, ses yeux bleus, son front haut et sans rides, son pas régulier, cette absence totale d'agitation externe, celui-là devait avoir des irides en dedans, et son cœur devait battre dans sa poitrine d'un heurt saccadé, quelque chose comme l'arlettement fébrile du remords ou le tressautement de la terreur. Comme je l'espionnais, comme je me glissais furtif auprès de lui, comme j'étudiais chaque inflexion de sa voix, rien. Pourquoi, après tout, ne pas supposer qu'à 6 heures juste, il avait pris dans 30 ans l'exercice, l'habitude de quitter son office? Qu'à cette heure-là, quelqu'un l'attendait, quelques gouvernantes peut-être, un peu grondeuse, un peu revêche, se plaignant que l'eau eût trop longtemps bouilli dans la caisse, que les rôtis fussent trop brûlés. Ben non, 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 1000 fois non. Quelqu'un ne l'attend pas, mais il va trouver quelqu'un. Il ne peut faire autrement. Il faut qu'il parte à 6 heures. Cela, je ne puis l'expliquer, mais je le répète, je le sais. Cela ne peut pas ne pas être. Cette pensée était devenue fixe. J'étais arrivé à considérer Golding comme un ennemi dont la vie m'appartenait. Il n'avait pas le droit de garder son secret, car l'anormal qui existait en lui se répercutait en moi et me causait un malaise continuel. Je résolus d'en finir. Justement, une circonstance me servit. J'avais préparé cela de longue date. Golding était très obligeant et, avant 6 heures, c'était un bon vivant avec lequel bien souvent j'avais bu un verre de sherry et partagé un plum cake. Alors je lui avais dit « Si je gagne mon procès, vous me permettrez de vous inviter à un lunch ?» J'avais dit « lunch » car ce mot impliquait le matin et j'avais besoin de l'avoir à ma table vers midi ou 1 heure. Je gagnais mon procès. Oh, je vous assure que je ne reculais devant rien pour réclamer l'exécution de sa promesse. J'avais peur qu'il ne se défiât, et mon insistance aurait dû lui donner des soupçons. Je craignais qu'il ne parlât de l'heure à laquelle il devait se retirer. Mais non, il n'en fut pas question. Et ce fut le visage riant, le front calme, qu'il me suivit à ma demeure dans Hamilton Square. Là, je fis les honneurs de mon mieux. J'étais fort gai, en vérité. Trop gai, peut-être, pour que ce fût naturel. Mais lui ne voyait rien, ne devinait rien. Il fredonna même le Yankee Doodle d'une voix qui, ma foi, n'était pas son charme. Mais j'attendais le dessert avec impatience, afin qu'il bût du vin, de mon vin à moi. Moi, je jouais une rude partie, et à chaque minute, je frissonnais. Je tremblais d'entendre sonner 6 heures. Mais non, j'ai bien le temps. Enfin, voici les pâtisseries et les fruits. Il m'a tendu son verre et j'ai versé. Il a apporté un toast aux étoiles de l'Union, et encore il a bu 2, 3, 6 verres. Comme ce que je sais est long à opérer. Mais voilà que sa tête s'alourdit, ses yeux se ferment. Je le conduis au canapé, j'allume un cigare et j'attends. Et 6 heures sonnent. Et il dort d'un sommeil que je sais pesant et invincible. Il n'a plus rien entendre d'ailleurs, l'heure n'a pas sonné à ma pendule. Je l'ai arrêté. Moi, j'étais trop attentif pour ne pas saisir l'écho venant de l'horloge voisine. Il n'a pas fait un mouvement. C'est étrange. Je m'attendais à quelque chose. Ce rien me surprend. Et pourtant non, je ne me suis pas trompé. J'y songe. Si ce n'est pas encore 6 heures pour lui. Alors doucement, oh, tout doucement, je me penche et je tire sa montre de son gousset. Comme je fais cela habilement, on dirait un habitué des 5 points. Il n'a pas tressailli. Mes doigts ont été si légers. Là, je regarde. Oh, il n'est que 6 heures moins 2 minutes. L'horloge avance. Je puis encore espérer quoi? L'épanouissement de l'individu inconnu. Voilà, l'aiguille marche lentement, lentement. Encore 2 secondes. Et d'un mouvement vif, je remets la montre à sa place et... Ah! Ce fut un curieux spectacle en vérité et que je n'oublierai de ma vie. Est-ce bien Golding qui se dressa tout à coup, comme si un ressort se fût tendu dans son épine dorsale? Il n'ouvrit pas les yeux, non? Mais à je ne sais quel rayonnement, je m'aperçus qu'il voyait à travers ses paupières fermées. Il fit un pas sans chanceler. Je pris son chapeau et le mis sur sa tête, un peu de travers, et j'eus la compassion de placer sa canne entre ses doigts. Et tout cela dut être fait bien vite, car depuis le moment où il s'était redressé, il n'avait pas cessé d'agir. Il avait traversé la salle où nous avions lynché, ouvert sa porte, et il descendait l'escalier. Oui, mais il s'en va, et bien après, que saurais-je? Le suivre, c'est banal. Il me semble qu'il y a mieux à faire. Maintenant, je ne doute plus. Il y a un secret. Ce secret est mon bien, ma proie. Il ne faut pas qu'il m'échappe. Une idée infernale traverse mon cerveau. Si je l'enfermais, je rentrerais tard, je lui dirais qu'il s'était endormi, que j'ai cru devoir respecter son sommeil. Et comme ses pensées étaient écloses en moi en une seconde, je me trouvais dehors et je fermais la porte à double tour. Il était enfermé, et toutes les voix de la ville, comme dans un palais désespérant, répétaient « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq, six, cinq, six. » Moi, je courus à une petite fenêtre basse par laquelle je pouvais plonger à l'intérieur. Je vis vraiment un spectacle bizarre. M. Golding était appuyé contre la porte, non comme un homme ivre, mais dans l'attitude d'un homme qui marche. Les jambes se levaient l'une après l'autre, en cadence, sans temps d'arrêt. Comprenez-vous cela? Il allait sans bouger. Le visage collé contre la porte, il tendait en avant, comme s'il eût fait une course rapide. Et en réalité, il piaffait sur place. Je ne sais pourquoi, cela me sembla démesurément grotesque. Je partis d'un violent éclat de rire et... Évidemment, il sera tombé de fatigue, dis-je à demi-voix. Mon partenaire posa son cigare sur le bord de la table, lança dans le foyer un long jet de salive brune et répondit: J'avis ta cœur et vous coupez, par l'amour diable, cela devient intolérable. Ceci se passait au National Club. Au moment où j'avais ri si intempestivement, une main s'était posée sur mon épaule et une voix bien connue m'avait proposé un tour au club. J'avais hésité. Fallait-il le laisser, lui? Et puis je m'étais dit qu'après tout, la porte était solide, que mon excuse serait toujours bonne et qu'il était comique de le laisser pendant quelques heures livré à lui-même. C'est ainsi qu'étant à l'Athénéum, j'aimais à corser les problèmes d'arithmétique que nous proposait le professeur en y ajoutant quelques combinaisons inconnues. Ces 2, 3, 4 heures, qui sait, pouvaient faire jaillir un X nouveau. Cette idée me séduisit et je suivis le capitaine au club. Là, j'acceptai une partie de whist. Mais en dépit de tous mes efforts, je n'avais pu parvenir à abstraire ma pensée, et chaque carte qui tombait me semblait correspondre à l'un des pas de l'homme. Si par hasard il parvenait à ouvrir ma porte, il s'enfuyait, alors tout était perdu. Car ce que je voulais avant tout, c'est qu'il ne pût pas aller là où il allait d'ordinaire. Je voulais déranger cette machine, briser un engrenage, affoler la roue. Mais non, je n'ai rien à craindre. À vous la donne, capitaine. Oui, mais tonnerre, ne jouez pas de sanglotant aussi maladroit. Il a raison, le capitaine, je joue mal. Mais il ne sait pas, lui, ce qui me préoccupe. D'abord, nul ne le saura. Est-ce que je voudrais partager mon secret avec quelqu'un? Mon secret, car il est bien à moi. Je l'ai fait lever comme un gibier et seul j'ai la piste. Certes, je sens en moi un immense désir. Oh, si vous saviez, ou bien encore, oh, je pourrais vous raconter quelque chose. Des phrases pleines de réticence viennent à mes lèvres, quand ce ne serait que pour avoir le plaisir de m'arrêter quand je le voudrais et de donner la preuve de ma discrétion. Il serait bon d'indiquer que j'ai la propriété d'un secret que nul ne partage, ni ne partagera que si cela me plaît. Mais ces mots qui brûlent mes lèvres, je ne les prononcerai pas. D'ailleurs, pourquoi ne puis-je pas chasser le souvenir? Le jeu m'intéresse, l'affiche est à 10 $. Voyons, faisons un pacte avec moi-même. Il est 10 heures et demie. À minuit, je retournerai chez moi. Minuit, c'est bien convenu. Tenez, cette résolution va me porter bonheur. Voilà que j'ai la main pleine d'atouts. 3 de tri, partie gagnée. Encore un rubber. Il marche toujours, lui. Oh, ne dites pas non, j'en suis sûr. C'est comme s'il j'étais. Ses pieds et sa canne heurtent régulièrement la dalle de l'antichambre. Pam, 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 pam. Un bruit léger, une, deux, trois. Où veut-il aller comme ça? Pas d'impatience, je dégusterai mon six mystère lentement, à petite dose. Il ne faut pas imiter ces aveugles qui dévorent tout leur bien en quelques mois. Je ferai des économies d'étranges. Je puiserai petit à petit dans mon trésor et je ne m'apercevrai même pas qu'il diminue. 11 h 30, encore une demi-heure. Alors, je suis content de moi. Mais aussi pour me récompenser, je me donne un quart d'heure de grâce. Je partirai à minuit moins un quart. Capitaine, nous avons gagné 32 fiches, je crois. Oui, vous nous quittez? Comme je souris victorieusement en répondant, j'ai affaire. Voilà, je mets mon paletot. Au revoir, mes amis. Oh, ils ne se doutent pas de ma joie. J'ai un peu la fièvre. Je suis comme un amoureux qui court à son premier rendez-vous. Ma maîtresse s'appelle Énigme. C'est un beau nom, n'est-il pas vrai? Bon, adieu, adieu, je suis parti. Non, je n'irai pas directement chez moi. Je ferai un petit tour dans Broadway. Justement, c'est un peu fête aujourd'hui. Les magasins sont encore ouverts. Des bijoux, des diamants. Oh, mais c'est chez moi que je vais le trouver, mon bijou, mon vrai diamant en moi. Je n'y tiens plus, allons. J'avançais tout doucement vers Hamilton Square, car je ne voulais pas arriver brusquement. Je ne voulais pas être vu, être entendu. Et puis je me disais, en prenant l'autre côté de la chaussée, je vais d'abord entendre de loin, d'aussi loin qu'il sera possible, ce bruit qui est comme l'écho du mystère. Est-ce que je ne le perçois pas encore? Non, encore un peu, un pas, encore un autre. Et je restais à la place que j'occupais, cloué par l'étonnement, oui, cloué! Comme si tout à coup une cheville d'un pied eût transpercé la semelle de mes bottes et eût été rivée par une main invisible en dessous du pavé. J'entendais, oui, mais ce que j'entendais, ce n'était pas ce que je supposais devoir entendre. Une, deux, trois, non, ce n'était pas ce bruit régulier, cadencé, un talon après un autre, puis la canne, encore un talon, encore un autre, et la canne. Ce n'était point cela le moins du monde. Comment définirais-je ce que j'entendais? Ce n'était pas un piétinement. Oh non, non, c'était plutôt un roulement, très vif, sans arrêt. Il n'y avait pas un intervalle d'un dixième de seconde entre chacun des sons qui parvenaient à mon oreille. Est-ce possible? Un seul homme ne peut produire ce bruit. Trépigna-t-il sur place? Son pas n'aurait pas cette persistance cadencée. Non, ils sont plusieurs. Alors, ce n'est pas supportable. La porte est solidement fermée, nul n'a pu entrer, pas plus que lui ne pouvait sortir. Pourquoi donc hésiter à avancer? Je n'ai pas peur, certes, la terreur est bien loin de mon âme. Pourtant, c'est bien étrange. Je penche la tête en avant, je tends le cou, je regarde, je vois. Il peut donc se faire qu'une vérité soit plus étrange que toutes les suppositions. Ils sont deux devant ma porte. Vous comprenez bien, devant, sur la dernière marche du perron, le nez contre le bois et marchant sur place, comme l'autre marche à l'intérieur. Sans bouger et séparés par l'épaisseur du bois, ils vont à la rencontre de l'autre. Pas un mot d'ailleurs. Rien que ce pas que nulle puissance ne semble devoir arrêter. Je me glisse à la fenêtre et la lueur d'une veilleuse qui brûle dans le corridor, je le reconnais, lui, Golding. Il va toujours en avant, sans avancer. Et les deux autres font le même manège au dehors. C'est une bizarre chose que ces trois mannequins mus par une même ficelle. Ce sont ces six talons qui produisent le roulement. Il y a aussi trois cannes. Mais quelle partie dois-je prendre? Attendre quoi? Que la machine motrice s'arrête d'elle-même. Il y a là des ressorts d'acier que rien ne détendra. Le jour peut avoir une influence sur l'étrangeté de la nuit, cela est vrai. Le chant du coq chasse les fantômes, soit. Mais il n'y a pas ici de fantômes, les spectres n'ont pas de talons. Et comme dit le poète, et le souffle muet glissa sur le silence. Golding et les autres sont des personnalités matérielles, des entités de chair et d'os. Et pourquoi l'homme doué du plus grand courage se sent-il ému en présence de l'homme sorti de sa norme? Je rencontrerai 10 Goldings au coin d'un bois, que je les braverai. Et un seul, parce qu'il est incompris, parce qu'un des ressorts de son être confine à l'intelligible, me paraît effrayant. En vérité, j'ai presque peur. Mais cette hésitation ne dure pas. Je me glisse doucement jusqu'à ma porte. Je monte 2 degrés du perron. Je suis derrière mes 2 étranges visiteurs. Et sans qu'ils s'en aperçoivent, car sur mon âme, ils ne s'en aperçoivent pas, je passe mon bras entre deux, j'introduis la clé dans ma serrure qui grince, et d'un élan brusque, j'ouvre ma porte. Dernièrement, sur la ligne ferrée du Massachusetts, 2 locomotives, choses de fer et d'acier, se précipitèrent l'une sur l'autre. Eh bien, par Jupiter, proportionnellement à la masse projetée, le choc ne fut pas plus violent. Les 2 gentlemen heurtèrent Golding qui heurta les 2 gentlemen. Puis il eut un cri, ou plutôt 3 cris en un seul. Puis non pas une course, non pas une fuite, non pas une déroute, mais un ruement à travers la vue. Les 2 gentlemen avaient mis Golding sur leurs épaules. Mon Dieu, oui, un sollicitor, comme une balle de coton. Celui de devant soutenait les 2 jambes, dont il s'était fait comme un collier, et l'autre portait la tête et tenait le cou à 2 mains. Et ils s'enfuyaient dans la direction du parc, avec leur fardeau ballotté, cahoté, tressautant. Qu'auriez-vous fait? Ce que je fis. Je courus après eux. Mais baste, ces jambes-là étaient de fer. Je les vis longtemps bondissant à travers les rues, les squares, les avenues, l'emportant lui, et avec lui mon secret. Et je dus m'arrêter, haletant, épuisant, soufflant, et m'appuyant des 2 mains aux côtés. Ils échappèrent à ma vue. Voyons, me voici chez moi, bien calme, bien reposé. Il faut que je réfléchisse. Quel est mon point de départ? Ah, j'y suis. 6 heures. 7 heures a un sens. Ce moment a une influence. Sur qui? Sur Golding, cela s'y est acquis. Et remarquons-le, une influence indépendante de sa propre volonté. La preuve, c'est qu'à 6h-2 minutes, il dormait. Seconde question. Comment a-t-il eu conscience de l'heure alors que le narcotique, car j'avoue mon subterfuge, agissait sur son système nerveux. Avez-vous remarqué ceci? Vous vous étiez dit, en vous couchant, « Demain, il faut que je me réveille à 5 heures du matin. » Et à 5 heures juste, n'ayant auprès de vous que votre montre, qui ne sonne pas, vous vous réveillez en sursaut. Il faut donc que votre cerveau ait été monté par le fait de votre intention, de telle sorte qu'un mouvement monitoire se produisit juste à l'heure dite. Cet effet est évidemment de même nature. Oui, c'est cela. Dans ce corps engourdi, il y eut, par habitude de volonté, détente réflexe d'un ressort à 6 heures juste. Et la machine excitée se mit tout entière en motion, comme lorsque vous touchez le balancier d'une pendule et que le reste du mécanisme se trouve entraîné par cet effort. Donc, quand je disais tout à l'heure « influence indépendante de sa volonté », je me trompais. C'est à la persistance latente de cette volition, devenue instinctive par habitude, qu'il faut attribuer cette mise en action. Considérons donc ces deux points comme prouvés. 6 heures, temps fixe où quelque chose doit être fait par Golding et ne peut pas ne pas être fait. Puis en second lieu, excitation cérébrale provenant de l'habitude, habitude déterminée dans le principe par un acte de volonté. Un jour il s'est dit, tous les jours à 6 heures je ferai cela. Et au bout d'un certain temps, il n'a plus été nécessaire pour lui d'avoir recours à l'acte coercitif de la volonté. La volonté a été reléguée au second plan. Aujourd'hui, le voulut-il, il ne pourrait s'abstenir de faire ce quelque chose. « Je ferai cela », a dit Golding. « Et cela, c'est X. » Quels sont les autres éléments du problème ? Deux gentlemen, obéissant à la même préoccupation, oh, n'en allons pas si vite. Est-ce bien là la vérité, ne fais-je pas fausse route ? Même préoccupation. Non ! Une même préoccupation aurait déterminé chez eux un effort dans le même sens. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils auraient voulu aller quelque part. Lui voulait sortir de chez moi, eux voulaient y rentrer. Il n'y a pas identité de volition, mais au contraire, contradiction d'effort. D'autre part, ils voulaient se rencontrer, d'où tendance à un point d'intersection. Prenons deux points mathématiques, A et B, et plaçons-les comme ceci. A, plusieurs points de suspension, et B à droite. A, c'est Golding, qui tendait évidemment vers B, et qui tend là, chaque jour à 6 heures. Donc, habitude de la part de B d'être touché chaque soir à une heure que nous ne pourrions déterminer qu'en connaissant la distance de A à B par la ligne partant de A. Habitude d'être touché par cette ligne implique de la part de B tendance à aller au-devant de A. Alors, B, que nous admettons animé, puisque cette idée se dégage que B est représenté par les deux gentlemen. En raison de cette tendance à sentir A près de lui, B dit s'est peu à peu rapproché de A. Un obstacle matériel s'est opposé à la réunion des deux termes du problème. Mais la double tendance agissant continuellement, A et B ont tendu l'un vers l'autre à travers ma porte. Et lorsque j'ai ouvert ma porte, B, double de A, l'a entraîné au point où ils eussent dû se trouver depuis longtemps, si je l'avais invité Golding à lyncher avec moi. Je repasse soigneusement mes déductions. Elles sont justes. Occupons-nous maintenant de la conclusion qui servira de base à mes recherches ultérieures. Cette conclusion, la voici, telle qu'elle sort toute armée de mon cerveau. Golding doit tous les soirs aller retrouver les deux gentlemen. Il ne peut s'en dispenser, et eux, de leur côté, ne peuvent rester séparés de Golding. Et cela ne dépend pas d'un caprice, d'une fantaisie de vieillard. Il y a plus que désir, plus qu'habitude. Il y a nécessité. Ce n'est pas une liaison qui existe entre ces trois hommes. C'est un lien, plus serré que le nœud d'Alexandre, et l'épée s'ébousserait sur lui. Une pareille amitié fatale, involontaire, n'a qu'un nom. J'hésite à le prononcer. Elle s'appelle, au boss, personne ne lira ceci, elle s'appelle complicité. Le lendemain, de bonne heure, j'étais chez Golding. Je ne vous dissimulerai pas qu'il m'avait fallu une certaine audace pour me rendre chez le solliciteur. Mais la curiosité fut plus forte que l'inquiétude. Je voulais savoir s'il se souviendrait. Pourquoi ce doute ? Il était bien évident qu'il ne pouvait avoir oublié ce qui s'était passé la veille au soir, à moins que... Eh bien, c'était justement cette idée qui me tourmentait. Je croyais, mais ceci ne venait d'aucune déduction, c'était un instinct qui n'avait pas eu conscience de ce qui s'était produit après 6 heures. Et tenez, voilà, j'avais raison. Maître Golding me reçoit avec la plus grande affabilité. Bien mieux, il me parle de notre petit repas et d'une certaine sauce, comme si rien que de très naturel n'avait accompagné son départ. Il est toujours le même, teint fleuri, œil émerillonné. Je crois qu'au besoin, il accepterait une seconde invitation. Je me retire, mon plan est fait, vous l'avez deviné. Pour procéder par ordre, il faut maintenant connaître 2 autres points importants. Premièrement, où va Maître Golding? Deuxièmement, quels sont les 2 gentlemen en question? Ceci me paraît facile, à 6 heures, je serai là. Oh, je vous avoue que j'ai la fièvre. C'est une rude tâche que j'ai entreprise, mais aussi que son accomplissement me promet de jouissance. Je saurai tout. Oh, quand je prononce ces 3 mots, je sens que je serai payé au centuple de mes peines. Aussi, 10 minutes avant que l'heure sonne, je suis là, blotti dans un coin, à quelques pas de sa porte. Je sais qu'il est dans son étude. Je n'aurais pas commis cet enfantillage de ne pas m'en assurer. Ces 10 minutes me paraissent un siècle. Elles passent cependant, trop lentement, mais elles passent. L'attention prête à mes sens une telle finesse que j'entends, je suis sûr que je l'entends, le timbre fêlé de sa pendule. Je ne m'étais pas trompé. C'est lui. Il marche, et moi, je marche derrière lui. J'ai l'air d'un détective attaché au pas d'un coupable. Après, peut-être est-ce bien un coupable? Il ne va pas vite, non? C'est un pas bien régulier, sec, cadencé. J'ai pris le pas moi aussi, si bien que les 2 bruits se confondent. Oh, il ne peut se douter de rien. Et de fait, il ne paraît pas préoccupé de ce qui se passe derrière lui. C'est devant lui que se trouve son intérêt. Ni à droite, ni à gauche, car il ne regarde rien. Et la plus jolie fille de l'État peut passer à ses côtés sans qu'il remarque son bas bien tiré ou sa taille cambrée. Parfois, quelqu'un vient en sens inverse et le heurte. Le choc sec ne le fait pas dévier d'un iota de la ligne directe. Nous avons suivi Broadway quelque temps. Nous sortons de la ville. Nous allons au faubourg. Nous arpentons la route. Arpenter est le mot, car chacun de ces pas a une dimension fixe, implacable. J'aperçois une maison presque en plaine. D'un étrange aspect, sur mon âme, les briques ont une teinte d'un rouge brun, comme le front d'un homme frappé d'apoplexie. La maison est entourée d'un parc, on y entre par une grille. Il tenta cette grille. Mais voici du nouveau. De 2 routes viennent en même temps, oh absolument en même temps, 2 gentlemen. Ils sont exactement à la même distance de la grille. Ils y arriveront exactement à la même seconde. Même pas, même rectitude dans la marche. Les voilà qui touchent la grille ensemble. La grille s'ouvre, ils entrent. Ces 3 points convergents se sont confondus en un seul groupe et ils disparaissent dans la maison. Jusqu'ici, je n'ai pas un seul instant fait fausse route. Malgré mon impatience, malgré l'attraction qui s'exerce sur moi, je ne veux pas, je ne dois pas me hâter. La grille est fermée. Golding et ses 2 amis, amis. Voici d'abord un mot qui mérite examen. Pourquoi amis? Cette idée est-elle juste? En tout cas, est-elle prouvée? Loin de là, donc, je la réserve. Golding et les 2 gentlemen sont enfermés dans la maison. Examinons la maison. La carapace peut souvent indiquer la nature du crustacé. C'est un grand bâtiment carré, lugubre. Qu'est-ce qui le rend lugubre? Rien et tout. Il y a sur ces pierres brunes comme une transsudation de mystère. De toutes les fenêtres, une seule est ouverte. On dirait l'œil borne d'un visage. Le parc a de hautes murailles. Par la grille seule, le regard peut pénétrer à l'intérieur. Les arbres sont touffus, les allées sont mal entretenues. Mon œil marche à travers ces allées. Rien que des feuilles mortes ou des branches dépouillées. Si fait, quelque chose. Je distingue à peine une sorte de chapelle basse, petite, étroite. Pourquoi cette découverte me fait-elle frissonner? C'est que, comme les hommes, les choses ont un rayonnement qui tombe d'aplomb sur le sens qui m'est particulier et dont j'ai parlé. Cette chapelle, bâtisse ou monument, s'est imposée à mon attention, à mon examen, à mon esprit d'investigation. Il y a là quelque chose, mais j'y songerai plus tard. Voici déjà 2 heures que je rôde autour de la maison et du parc. Aucun des 3 gentlemen n'est sorti. Il est 8h30. La nuit est profonde et seule la fenêtre que j'ai d'abord remarquée a été éclairée. C'est là qu'ils sont. Si je pouvais m'approcher, si je pouvais plonger mon regard dans cette chambre, mais il n'y faut pas songer. La grille est bien fermée, les murs sont trop élevés. Oh, si de la puissance de mon œil, rivé à cette fenêtre, je pouvais percer cette épaisseur qui me les cache. Non, il ne faut rien livrer au hasard. Désormais, demain, je verrai. De demain, je ferai un pas de plus dans le labyrinthe où je me suis engagé. Tout à coup, oh, ce fut une terrible surprise en vérité, un grand cri parvint jusqu'à moi. Ce n'était pas un cri de douleur. Je ne supposais pas un seul instant que quelqu'un pût avoir besoin de secours. C'était une clameur longue, longue, comme l'ululation du chat en amour. Et de fait, c'était moins un cri qu'un son. Il n'avait pas été proféré comme l'est un cri dans un arrachement de l'âme. Il avait commencé, voilé, presque timide, puis avait grossi dans une expansion sinistre. Puis au moment même où il allait s'éteindre, 2 autres sons s'étaient élevés et le premier avait recommencé comme pour se joindre à eux, parallèlement. Quelque chose comme la tonique, la tierce et la quinte. C'était à peu près cela, et cependant nulle voix humaine ne pouvait, à mon avis, proférer le même son. À la fenêtre que j'observais, je vis un notable changement. L'ombre succédait à la lumière, puis la lumière à l'ombre. Il me semblait encore, avec les houes qui ne s'arrêtaient pas, entendre d'autres bruits, cela sourd, lourd, comme si une masse sans cesse relevée eût été sans cesse rejetée sur le plancher. Puis les houes s'interrompaient, et alors je percevais des éclats de voix, de vrais éclats. Cela ressemblait au bruit des bâtons des Irlandais quand ils s'assomment à la porte de quelque bouge. Ces voix avaient l'air de frapper tant elles étaient sèches et rauques. Puis les lumières bondissaient encore, puis elles disparaissaient sous l'interposition de quelques corps opaques. Mon parti était pris. Dussé-je vivre 100 ans, j'aurais employé le reste de ma vie à percer le mystère. Je passerai sur quelques détails qui cependant nécessitèrent de ma part un véritable travail. Oh, je ne reculais devant aucune fatigue. Je sus d'abord quels étaient les 2 gentlemen amis de Golding. L'un était le révérend Foster, qui édifiait ses chères brebis par ses prêches pleins de douceur et de charité. Je l'écoutais comme jamais prédicateur ne fut écouté. Et en vérité, c'était un habile parleur, Mais que m'importe sa faconde ou son habileté? Je suivis tout un jour, et je le vis entrer dans la maison des pauvres et porter des secours aux malades. Je le vis, d'un pas calme et mesuré, parcourir les rues et saluer d'un signe de tête les enfants qui passaient. Mais ce que je vis aussi, et que me faisait tout le reste, c'est qu'à 6 heures, il quittait l'endroit où il se trouvait, quel qu'il fût, et que de son allure, qui devenait alors saccadée, comme saccadé était le pas de Golding à 6 heures, il allait sans s'arrêter vers la maison de briques rougeâtres. L'autre, le troisième, était un bon vivant. Sur mon âme, il fallait avoir l'esprit bien soupçonneux pour ne pas croire à la vertu de cet excellent homme, toujours souriant, passant sa vie au cercle, à table ou au jeu, aimant les jeunes gens et se mêlant volontiers aux parties que nos jeunes flirteurs organisent avec les blondes filles de l'Union. Comme il savait galamment, et avec quel sourire, offrir son bras à la plus rose de nos adorables misses. Oui, jusqu'à 6 heures, car, décidément, cette heure est fatale. Elle sonne dans la vie de ces trois hommes comme tombe le battant sur la cloche de cuivre. Et leur âme teinte sous ce coup et frissonne longtemps encore après que le son s'est éteint. Comme je les tenais bien tous les trois, j'avais tracé autour d'eux un cercle cabalistique dont mon regard était le centre, dont leur vie était la circonférence. Je les voyais s'agiter, je les couvais de l'œil. Oh, ils m'appartenaient bien, et quelle puissance j'éprouvais à me dire « Ils ne se doutent de rien !» J'étais dans leur ombre, dans l'air qui les environnait. Je surgissais auprès d'eux alors qu'ils ne soupçonnaient pas. Comment l'auraient-ils soupçonné que quelqu'un les épiait? Je remarquais encore ceci. Avant 6 heures, ils ne se connaissaient pas. Feignaient-ils de ne pas se connaître? Je ne pourrais pas l'affirmer. Et cependant, quand plusieurs fois je les vis se rencontrer, se croiser en se touchant du coude ou se cédant mutuellement le pas sur un trottoir trop étroit, jamais je ne surpris, il fallait qu'il fût impossible de rien surprendre, un regard, un clignement d'yeux. À Golding, je parlais du révérend Ploster, du joyeux Trabler, c'était le nom du troisième gentleman. Pas un pli de son visage ne tressaillit, pas une fibre de son front ne s'agita. Une fois, oh, c'était hardi, je lui demandais où il demeurait. Je crois, Dieu me donne, qu'il n'entendit pas d'abord ma question. J'insistais avec un sauvage plaisir. Lui, délibérément, me répondit, « Là-bas, au Black Castle. » Au Château Noir. Oui, mais c'était bien le nom de la maison de briques. Et il continua de causer comme si questions et réponses eussent été les plus simples. Il n'y a plus à hésiter, je ne peux plus vivre ainsi. 20 fois déjà j'ai passé la nuit au pied du Black Castle. 20 fois j'ai entendu les mêmes voix poussant leur « ouh » lugubre. 20 fois à la même fenêtre j'ai vu sautiller et s'obscurcir les mêmes lumières. Et puis j'ai revu, blanchâtre au bout de l'allée, la petite chapelle. Tout mon être est surexcité. On ne pourra pas m'accuser d'impatience, de précipitation. Demain. Le Black Castle se trouvait hors de la ville, à 2 milles du dernier faubourg. Le parc était spacieux, 3 routes se croisaient à l'entrée même de la propriété, puis s'unissaient en une seule, montant vers le nord. Les 3 autres côtés du parc, dont les murs formaient un parallélogramme, dormaient, donnaient sur des terrains vagues, non cultivés et par conséquent non peuplés. J'y avais mis de la patience. J'avais apporté moi-même une échelle de corde, garnie de crampons de fer, et je l'avais enfouie au pied du mur d'enceinte. J'avais bien entendu constaté d'abord que l'entablement du mur présentait une saillie suffisante pour que mes crochets puissent s'y fixer aisément. Autre détail important, car je n'étais pas homme à rien négliger, Il n'y avait à l'intérieur ni jardinier ni chien de garde, pas une créature vivante. Une fois déjà le matin, j'étais parvenu à regarder par-dessus la crête de la muraille, et au pied de la maison, j'avais aperçu une porte vermoulue, entr'ouverte, et laissant entrevoir la première marche d'un escalier. Évidemment, c'était un escalier de service qui, autrefois, était destiné aux domestiques. Car il y a quelques 10 ans, la maison appartenait à un gentleman du nom de Richardson, qui était mort subitement, 4 mois après sa femme, et qui menait grand train, à ce qu'on m'avait assuré. Toutes mes mesures étaient bien prises. J'avais une lanterne sourde qui se pouvait attacher à ma ceinture, et dont l'ouverture, soigneusement entretenue, ne laissait échapper de lumière que tout juste ce qu'on voulait. J'avais d'abord pris un couteau, mais à quoi bon? Un couteau m'avait paru inutile et je l'avais rejeté. Mes pieds étaient chaussés de souliers épais à semelles d'étoffe, ne faisant aucun bruit. J'éprouvais un âpre plaisir à passer en revue mon arsenal d'investigateur. J'étais froid et calme. Au pied du mur, j'attendais que 6 heures sonnassent, car je savais qu'il me restait tout le temps nécessaire pour être avant eux dans la maison. Allô, l'heure est venue. L'échelle s'accroche au mur, la lanterne est à ma ceinture. Courage! Je suis chez moi, enfin. Je suis rentré en courant, en fuyant. Comment ai-je retrouvé ma route? Il me semblait que j'étais entraîné dans un rhombus vertigineux. Ma tête éclate sous les coups de la harpie migraine. Confierai-je au papier ce que j'ai vu, ce que je sais? J'hésite, car je ne puis croire moi-même à la réalité de cette scène atroce. Et cependant, cela est, j'étais bien éveillé. Oh oui, bien éveillé. Maintenant, le cauchemar danse dans mon cerveau, dont les parois plient sous cette sarabande comme un plancher mal lié. Étrange cauchemar, en vérité, n'étant que le souvenir d'un homme éveillé et qui eût souhaité de dormir. Où en étais-je resté? Ah, je sais. Oui, j'avais jeté l'échelle de corde sur le rebord du mur, et les crochets avaient trouvé leur point d'appui. Je montais lentement, avec précaution. Puis, arrivé à la crête du mur, j'attirai l'échelle à moi et je la suspendis de telle sorte que je puisse descendre. Je faisais tout cela régulièrement, sans me hâter, car je savais que j'avais tout le temps nécessaire. Je me trouvais dans le parc. C'était, ma foi, assez loin de la maison. Je traversais plusieurs allées et je dus passer devant la petite chapelle blanche dont j'ai parlé. Là, inconsciemment, je me sentis saisi de nouveau par une impression indéfinissable. Le rayonnement de ce monument affectait mes nerfs, mais je ne m'arrêtais pas. Je tendais à la petite porte que j'avais vue. Je l'eus bientôt atteinte. Je la poussai. Les gonds étaient rouillés et en tournant, la porte fit entendre comme un râle dont l'écho se répercuta dans l'escalier. Car, je ne m'étais pas trompé, il y avait là un escalier. La lune s'était levée de bonne heure ce soir-là, et sa lueur blanchâtre, se heurtant contre le cadre de la porte, découpait sur les premières marches un rectangle éclatant. Au-dessus, l'obscurité, mais une obscurité en quelque sorte humide. Il me semblait entendre la muraille et le bois des marches craquer sous le rongement de la moisissure dont l'heure de racre me prenait à la gorge. Il y avait longtemps qu'on n'était pas passé par là. Mais, fait bizarre, par une sorte de révélation intuitive, il me sembla, d'où venait cette pensée qui s'imposait à mon esprit comme une certitude, que c'était par là que l'on était sorti. Quand cela, oh, on aurait su le dire. Cependant, j'aurais pu formuler ma préoccupation quand s'étaient posés les termes du problème. Je sentais, oui, c'était plutôt un sentiment, je dirais presque une sensation, qu'une idée. Je sentais que la topographie du mystère cherché pouvait se tracer en un triangle dont la chapelle eût été le sommet, et dont la porte que je franchissais et la chambre que j'avais vue éclairée eussent été les deux autres angles. Je m'engageai courageusement dans l'escalier. Nul bruit. J'entr'ouvris la lanterne que j'avais détachée de ma ceinture et je montai. Mes pas ne faisaient aucun bruit. Je comptai les marches, machinalement, uniquement pour obéir au besoin qui me possédait de donner un aliment à mon attention. Ai-je dit que la maison avait deux étages, sans compter un rez-de-chaussée et un sous-sol? J'atteignis le premier étage. Là, je refermai ma lanterne, car une ouverture ménagée dans la muraille permettait à la lune d'éclairer le palier. Je vis une porte à ma droite. Évidemment, elle donnait accès dans les appartements. Cependant, je m'arrêtai un moment et je réfléchis. La fenêtre que j'avais vue éclairée était la troisième à partir du côté de la maison regardant le parc. Donc, il y avait de l'autre côté de cette porte, qui était là devant moi, une ou deux pièces éclairées par les deux fenêtres sombres. De plus, sur ces deux fenêtres, je n'avais remarqué aucun reflet de lumière, si léger qu'il fût. Donc, il n'existait pas de communication directe patente entre ces pièces et celles que je voulais surveiller. Ceci me décida. Je cherchais la serrure. Elle s'ouvrait au moyen de ces becs de canne si fréquents dans nos vieilles maisons. Je posais la main dessus et je poussais. La porte résista. Évidemment, elle était fermée en dedans. Mais comment? Je craignis alors d'avoir commencé trop tard et de n'avoir pas le temps de prendre toutes mes dispositions avant l'arrivée de mes hommes. Il fallait d'abord savoir si la porte était fermée par un double tour ou par tout autre moyen. Il y avait une serrure. Je soufflai vigoureusement par le trou et j'acquis la certitude que la clé n'était pas en dedans. Alors j'ouvris de nouveau le bec de canne, en appliquant en même temps mon épaule à la hauteur de la serrure, et j'appuyai de tout mon effort. Je remarquai alors que la porte cédait dans cette partie depuis le sol. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de double peine, mais qu'un verrou au-dessus de la serrure retenait la porte à l'intérieur. Oh, je ne fus pas longtemps à avoir raison du verrou. J'avais pris mes précautions. J'introduisis un petit ciseau ad hoc dans la rainure de la porte. Et lorsque j'eus trouvé exactement la place où était ce verrou, je fis pénétrer mon ciseau de façon à ce qu'il touchât le plat du verrou, et alors, par une série de petits mouvements, faisant levier, je repoussai le verrou dans sa gâche. Je n'étais pas fatigué, car ce travail n'avait exigé aucun effort, mais cependant mon front ruisselait de sueur. Mais courage, je ne suis pas ici pour m'arrêter à des détails de cette nature. Je pousse la porte lentement, car je crains encore que les gonds ne soient rouillés. Au contraire, ils glissent comme s'ils étaient posés sur une rondelle de velours. Où suis-je? L'obscurité est profonde. Ah, ma lanterne! C'est une vaste pièce, toute revêtue de vieux chêne, sombre et noir. Deux fenêtres. Ceci me rassure. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais avant tout, une précaution. Comment pénètre-t-on de cette pièce dans celle qui se trouve plus loin? Je promène ma lanterne sur la muraille. Nulle ouverture visible, pas de porte. C'est étrange, en vérité. Voyons l'ameublement. Auprès de la porte par laquelle je suis entré, une alcôve, un lit de chêne, vieille forme à baldaquin, des rideaux en tapisserie avec une châsse qui court et grimace. Le lit est défait. Comment cela? Quelqu'un couche-t-il donc ici? Mais non, non, je les soulève et la poussière forme une raie brune justement à l'endroit où ils se séparent. Personne ne couche là actuellement. La chose est claire. Mais pourquoi ce lit n'a-t-il pas été remis en état? Et depuis combien de temps? Depuis combien de temps Golding et ses amis se réunissent-ils là? Il me semble que ces deux circonstances doivent se rattacher l'une à l'autre. Procédons rapidement à notre examen. En face de la porte par laquelle je suis entré, un immense bahut de chêne. Oh, il est plus haut que cette porte. Qui me dit qu'il n'a pas été placé là exprès pour condamner l'issue que je cherche? Faudra que je trouve le moyen de vérifier cette supposition. Les fenêtres, fermées d'épais volets, recouverts de rideaux en tapisserie. Bien. Quelques chaises, des tables escabeaux, un bureau dans un coin, et c'est tout. De la poussière, beaucoup de poussière. On n'entre jamais ici. Ceci ne fait plus de doute. Mais j'entends du bruit. Oui, c'est bien la grille du parc qui tourne et grince. Pas un moment à perdre. Je vais à la porte, je la referme, je pousse le verrou, puis je tourne le ressort de ma lanterne. Plus rien, plus une lueur. Je suis seul, nul ne sait que je suis ici. Oh, comme il fait sombre !